Thank you, ça va? C'est bon? OK. Je vous invite à trouver dans vos Bibles le chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Donc, Jean, chapitre 20, on va lire quelques versets dans le chapitre 20 et quelques versets dans le chapitre 21. Gilles m'a appelé justement pour quelques dates cet hiver. Mentionnait que il était bien pris cet automne, donc on a brisé la tradition de ma visite l'automne. Donc quand j'arrive, il dit, est-ce que tu te rappelais du chemin? Ben, j'ai un GPS. J'ai mon GPS, je suis arrivé. Maintenant, je prétends que si je prêche jusqu'à midi, j'ai dépassé le temps, fait que je vais essayer de pas faire ça. Bien que vous allez voir ce matin que je vous amène sur un type de prédication un petit peu différent de ce que je fais habituellement. Vous me connaissez, j'espère, comme quelqu'un qui aime prêcher des textes. Mais ce matin, je vais faire un petit peu autrement. Mais lisons avant que je rentre dans le vif du sujet. J'aimerais ça lire le verset 30 et 31 du chapitre 20 de Jean. Donc, Jean écrit ici, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits ou décrits plutôt dans ce livre, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Aussi, les deux derniers versets du chapitre 21. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Donc, mon but ce matin, ce n'est pas de prêcher un texte. Mon but ce matin, c'est de prêcher un livre au complet. Maintenant, Jean, il rend facile le fait qu'on puisse faire ce survol, parce que ça va être un survol de l'Évangile de Jean. Puis Jean rend facile ce survol ou ce qu'on devrait considérer dans ce survol-là parce qu'il nous donne le but, son but. Pourquoi il a écrit cet évangile-là, Jean? Il nous dit pourquoi au verset 31 du chapitre 20. Hein, il nous dit, mais ces choses ont été écrites, donc tout ce qui est avant. Pourquoi? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, c'est son but. Avant de regarder ces passages-là puis de faire un survol, j'aimerais ça quand même qu'on y aille par étapes. L'auteur, on dit que c'est Jean qui a écrit l'Évangile, qui porte son nom. Mais l'Évangile de Jean, là, c'est lui, c'est pas lui qui l'a écrit. On a défini chacun des Évangiles. Mais dans les Évangiles, les auteurs ne se nomment pas. Et Jean non plus. Donc, on prétend que les anciens d'Éphèse, parce qu'il aurait écrit son évangile pendant qu'il était dans la ville d'Éphèse, on prétend que les anciens d'Éphèse ont demandé à Jean d'écrire aussi un évangile. Est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas vous le dire. Mais certainement que le Saint-Esprit lui a inspiré, soit à la demande des anciens d'Éphèse ou parce qu'il croyait que c'était important. Mais certainement que Saint-Esprit l'a encouragé, l'a incité à écrire son évangile. C'était possible, pourquoi? Parce que Jean nous le dit, je cite les paroles du Seigneur Jésus que Jean nous relate. Le Seigneur dit à ses disciples, « Je vous dis ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc Jean, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il fait simplement relater tout ce que le Seigneur Jésus a dit et a fait. Il est capable de faire ça. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lorsqu'il l'a quitté, il aura laissé le Saint-Esprit, le même Esprit qui est à nous. Donc, comme je disais, dans les évangiles, aucun des évangélistes dit moi Jean ou moi Matthieu ou moi Luc, on a écrit ces choses-là. Contrairement aux épîtres, souvent dans les épîtres, l'auteur, il se nomme au début, hein, mais pas dans les évangiles. Comment est-ce qu'on peut savoir que c'est Jean? Ben, regardez ce qu'on a lu au verset 24 du chapitre 21. C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. C'est qui ce disciple-là? Ben, on le voit au verset 20 du même chapitre. Pierre s'étant retourné, vint venir après lui ou après eux, le disciple que Jésus aimait. C'est ce disciple-là, le disciple que Jésus aimait. À 4 reprises dans son évangile, Jean va s'identifier lui-même comme le disciple que Jésus aimait. La première fois, c'est au chapitre 13, verset 23, qui est le même incident qu'on voit dans le chapitre 21. Hein. Pierre s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait. Celui qui, pendant le souper, s'est penché sur la poitrine du Seigneur Jésus. Donc, ce disciple que Jésus aimait là était couché sur le sein du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que celui qui écrit l'Évangile, c'est un intime du Seigneur Jésus. C'est un des 12. Donc, ça nous aide à savoir qui c'était. Une chose qui est intéressante aussi, qui est à remarquer, c'est que Jean ne s'identifie jamais par son nom dans son évangile, mais tous les autres évangiles identifient Jean par son nom. Tandis que Jean, dans son évangile, va identifier beaucoup des autres apôtres, mais naturellement pas lui-même. Donc, par ces déductions-là, on comprend que le disciple que Jésus aimait, c'est Jean. C'est ce qu'on a pour être capable de l'identifier. Quand c'est ce qui a écrit son évangile, bien, on sait que c'est le dernier évangile qui a été écrit. On sait qu'il l'a écrit pendant qu'il était à Éphèse. Donc, Jean était déjà âgé à cette époque-là. Donc, on place la rédaction de l'évangile de Jean entre l'an 80 et 90. Donc, on l'a positionné aussi dans le canon des Écritures, comme le dernier évangile. Hein? On a tous les autres évangiles, puis Jean, c'est le dernier évangile. Comme je l'ai fait remarquer, Jean, il donne la raison pourquoi il écrit. Dans le verset 31 du chapitre 20, puis il y a trois mots clés qu'il faut retenir dans ce que Jean nous dit dans ce verset-là. Mais ces choses ont été écrites, pourquoi? Afin que vous croyiez. Donc, Jean écrit pour que les gens croient. Et si vous prenez une concordance ou une Bible électronique qui vous fait tout le travail pour vous, vous allez découvrir que le mot « croire » se retrouve plus d'une centaine de fois dans son évangile. Donc, c'est un thème important pour Jean. Jean, c'est important, puis il le dit. Pourquoi il écrit? Il écrit afin que l'on croit. Que l'on croit quoi? Ben que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Jean écrit à propos de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est le deuxième mot important qu'on va retrouver soit par le mot Jésus, soit par le mot Christ. Puis d'ailleurs, Christ, c'est une translittération. On prend le mot grec Christos, puis on le francise par le mot Christ. Ça veut dire « oint ». C'est le titre qui correspond à « Messie ». Donc, quand on lit dans son évangile à propos du Messie, à propos du Christ, à propos de Jésus, on parle toujours de la même personne. Jésus, c'est son nom. Christ, c'est son titre. C'est pas son nom, c'est son titre. C'est qui il est. Il est le Messie, il est le Christ, il est le Fils de Dieu. Donc, c'est le deuxième point important qu'il faut retenir de ce que Jean veut, qu'on se rappelle de la raison pourquoi il écrit. Et finalement, il écrit pourquoi? Qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, troisième mot important, c'est le mot « vie ». Jean écrit afin que ceux qui vont le lire puissent croire que Jésus-Christ est le Fils dans le but qu'ils aient la vie, donc la vie éternelle. Ça aussi, c'est un thème important que Jean relate dans son évangile. Donc, mon but ce matin, c'est de faire un survol de l'évangile de Jean, d'être capable de dire à Jean, tu as réussi ou pas réussi ton but. Mais vous allez voir que Jean a réussi. Jean avait un but, puis il a réussi à atteindre son but. Maintenant, juste quelques petites enseignement sur ces versets-là avant qu'on prenne notre envol sur notre survol. Comment est-ce que Jean s'y prend? Pour nous aider à comprendre comment Jean s'y prend pour écrire son évangile, il va mentionner que ces choses ont été écrites afin que. C'est-à-dire qu'il mentionne ce « afin que », ben il le mentionne, hein, ces choses-là, « afin que », il le mentionne dans le verset précédent, au verset 30. Jésus a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ces choses ont été écrites « afin que ». Donc, ça nous dit que Jean va utiliser les miracles que le Seigneur Jésus a faits pour nous démontrer que le Seigneur Jésus est vraiment le Christ, le Messie. Puis il va choisir un certain nombre de miracles. Il les écrira pas à propos de tous les miracles. Hein? Il les déclinera pas tous. D'ailleurs, il nous dit que si on aurait écrit tout ce qui concerne le Seigneur Jésus, selon Jean, puis c'est probablement une manière assez hyperbole de dire les choses, mais il dit la terre ne contiendrait pas tout. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas tout écrit. Mais il fait un choix, il choisit certains miracles pour démontrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Certaines traductions vont traduire le mot miracle par le mot signe. Moi, je préfère le mot signe aussi que le mot miracle. Carson, dans son commentaire, écrit avec justesse, il dit « Jean préfère le simple mot signe. Les miracles de Jésus ne sont jamais de simples démonstrations de puissance. » Et encore moins des artifices visant à impressionner la foule. Lorsque le Seigneur Jésus faisait des miracles, ce n'était pas pour impressionner les gens. Je poursuis ce que Carson dit, mais ils sont des signes, des démonstrations de puissance significatives qui orientent quoi vers des réalités plus profondes susceptibles d'être perçues par les regards de la foi. C'est pour susciter la foi. Donc, Jean va utiliser sept signes, sept miracles, pour démontrer que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Puis ces sept miracles-là, on les trouve dans la première partie de son évangile. Jean, c'est intéressant parce que son évangile a deux parties à peu près égales. Puis dans les 12 premiers chapitres, on retrouve ces sept signes-là, ces sept miracles-là. Naturellement, tout ce que Jean écrit dans ces premiers chapitres-là ne se limite pas seulement aux miracles, mais il utilise beaucoup les miracles comme tremplin. La deuxième partie de son évangile, les versets 13 à 21, Jean écrit comme un évangéliste, comme les autres plutôt, évangéliste, une narration des derniers jours du Seigneur Jésus, de sa mort sur la croix, puis de sa résurrection. Et ce qui est particulier de Jean et intéressant, c'est qu'avant de raconter ces événements-là, Jean prend les chapitres 13 à 17, pour parler aux disciples, pour les préparer à ce qui va arriver, puis à la mission qu'ils vont accomplir. On a ce beau discours-là, ces beaux moments-là que le Seigneur Jésus prend avec ses disciples. À ce moment-ci, c'est peut-être intéressant que je mentionne qu'au moins 90% de ce que Jean relate dans son évangile, c'est du nouveau matériel. On ne les retrouve pas dans les autres évangiles, qu'on nomme les évangiles synoptiques. Pourquoi? Ben, la raison, c'est que le mot synoptique vient du mot grec synosis, qui veut dire vue d'ensemble. Les autres disciples donnent une vue d'ensemble, puis dans la manière qu'ils donnent leur vue d'ensemble, ils ont beaucoup de similitudes. Mais Jean prend un tout autre chemin, puis ne va pas dans le même chemin que les autres évangélistes. Par exemple, des sept miracles, des sept signes que Jean relate, seulement deux de ces sept-là se retrouvent dans les autres évangiles. C'est la multiplication des pains et des poissons, puis le fait qu'il marche sur les eaux. Donc, deux sur sept seulement dans les autres. Les cinq autres sont uniques à Jean. Jean va dire aussi qu'il a fait ses signes en présence des disciples, qu'on a lu dans le verset 30 du chapitre 20. Puis dans le verset 24 du chapitre 21, il dit que lui-même rend témoignage de ces choses. Et Jean veut qu'on sache que son témoignage est vrai. Hein. Nous savons que son témoignage est vrai. Donc, le « nous » ici, c'est un « nous » rédactionnel. Hein. C'est de la manière que Jean s'exprime pour ce qu'il a écrit. C'est sa manière d'écrire. Puis il veut qu'on sache que tout ce qu'il a écrit, c'est en toute honnêteté. Hein, c'est digne de foi, c'est véritable et c'est véridique. Bon, maintenant, prenons le temps de faire notre survol de l'Évangile de Jean à haute altitude, en gardant à l'esprit les trois mots que je vous ai dit, qui sont les buts de l'évangéliste, hein, les mots clés, Messie ou Fils de Dieu ou Christ, croire et vie. Bon, on vient de prendre place dans l'avion, c'est au bout de la piste avant de décoller sur notre survol. Donc, Jean ne débute pas par le récit de la naissance du Messie, comme certains autres évangélistes, ou ne nous donne pas une généalogie du Fils du Messie ou du Fils de Dieu, mais il commence par un prologue, où est-ce qu'il établit que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Maintenant, vous pouvez soit m'écouter, ou ceux qui ont le doigt facile, vous pouvez me suivre, mais on va naturellement citer beaucoup de versets, donc je vous laisse libre, soit que vous tournez dans vos Bibles pour voir, constater, soit que vous faites simplement écouter. Et si vous avez de l'intérêt plus tard à prendre du temps pour voir que je vous ai bien cité ce qui est vrai, ça me fait plaisir de vous envoyer mes notes, puis vous vous assisez, puis vous repassez ça. Mais naturellement, dans un survol, on ne peut pas prendre le temps de lire tous les textes dans leur entier. Donc, le prologue, le début de l'Évangile de Jean, Jean 1:1, hein, on lit que Jean nous présente la parole. Certains vont traduire le verbe, puis d'ailleurs, dans un des cantiques, il me semble qu'on a lu ce matin, on faisait référence au verbe. Mais je pense que c'est mieux de traduire par le mot parole. Donc, Jean nous présente la parole qui était avec Dieu, qui était Dieu. Au verset 4, en elle était la vie. Et au verset 12, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, la vie, dans le but de ceux qui croient, deviennent enfants de Dieu, c'est qu'on croit dans la parole. Verset 14, la parole a été faite chair et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme le Fils unique venant du Père. Verset 6 et 7, Jean-Baptiste a été envoyé de Dieu. Pourquoi? Pour servir de témoin, afin que tous croient par lui, par son témoignage. Donc, tout au début, déjà dans le prologue, et puis le chapitre 1, c'est comme un genre d'introduction, puis le prologue, c'est comme le début de cette introduction-là. Bien, tout de go, on voit que Jean identifie le Fils de Dieu qui donne la vie à ceux qui croient en lui. Hein? Mais il met la table aussi sur son rejet, parce qu'une des choses qu'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est que le Seigneur Jésus a été quand même abondamment rejeté. Remarquez, verset 5, les ténèbres ne l'ont point reçu. Verset 10, le monde ne l'a point connu. Et verset 11, les siens, c'est-à-dire la nation juive, ne l'ont point reçu. Et Jean termine son introduction par des témoignages. Le restant du chapitre 1, c'est des témoignages. Il y en a trois témoignages. Le témoignage de Jean-Baptiste, hein, au verset 15, Jean lui a rendu témoignage. Il a rendu témoignage. De quoi, au verset 18, qu'il est le Fils unique qui est venu du Père. Verset 19, voici le témoignage de Jean. Qu'est-ce qui témoigne Jean au verset 20? Je ne suis pas le Christ, mais t'es qui Jean? Toi. Verset 23, je suis la voix qui crie dans le désert, qui prépare la voie ou le chemin du Seigneur. C'est le témoignage de Jean. Au verset 34, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Donc, c'était le but de Jean, de rendre témoignage que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Puis pourquoi il veut rendre ce témoignage-là? Bien, c'est afin qu'on croit en lui, qu'on croit par le moyen de son témoignage. Il y a aussi Jean et son frère Simon-Pierre, au verset 35-42. Hein, Jean utilise l'appel des apôtres comme témoignage. Deux disciples de Jean-Baptiste, un c'est André, entendent Jean dire au verset 36, « Voici l'agneau de Dieu ». André, plus tard, voit son frère Simon. Qu'est-ce qu'il dit? On voit au verset 41, il lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie Christ. Le témoignage aussi de Philippe et Nathanaël, verset 43-51. Donc, suite à une rencontre avec Jésus, Nathanaël rend témoignage à Philippe au verset 45, nous avons trouvé celui qui, Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. On a l'introduction ici du témoignage de Moïse aussi. Donc, après cette rencontre mémorable-là que Nathanaël a avec le Seigneur Jésus, il va lui aussi rendre témoignage Seigneur Jésus, il va aussi rendre témoignage du Seigneur Jésus. Au verset 49, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Donc, cette idée-là que Jean veut qu'on saisisse, que ces témoignages-là qui témoignent que Jésus est le Fils de Dieu, afin qu'on croit en lui pour avoir la vie. Et je fais une petite parenthèse, tournez pas parce que je ne veux pas briser le flot, mais le témoignage est important dans l'Évangile de Jean aussi, puis on le voit particulièrement au chapitre 5. On accuse le Seigneur Jésus de rendre témoignage de lui-même, puis le Seigneur répond ici, il a dit... Il n'y a pas juste moi qui rends témoignage de moi-même, il y a aussi, au verset 36, chapitre 5, les œuvres, mais j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean-Baptiste, car les œuvres, les miracles que j'accomplis, que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Puis on a encore cette idée-là de signes, de miracles. Le Seigneur Jésus va dire, ben, ces signes-là, ces miracles-là, ça témoigne que le Père m'a envoyé. On aurait pu lire Jean 10, 25. On a le témoignage du Père dans le verset 37 du chapitre 5 aussi. Et le Père m'a envoyé, qui m'a envoyé, a rendu lui-même témoignage de moi. On aurait pu lire le chapitre 8, verset 18. Il y a les Écritures qui rendent témoignage de lui aussi au verset 39 encore du chapitre 5. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles quoi? La vie éternelle. Et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Puis pour le croyant, on a le Saint-Esprit, Jean 15, 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Seigneur va dire à Pilate dans Jean 18, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » D'ailleurs, le Seigneur va dire, lui-même va dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » La vie éternelle. Donc, dans les chapitres 2 à 12, Jean relate les sept signes. Et ce n'est pas seulement qu'il les relate un après l'autre. Il va les relater, oui, mais à travers ces signes-là, ces enseignements qu'il donne à propos de ces miracles-là, ben, il va parler aussi du ministère du Seigneur Jésus. Il va aussi... intercaler les enseignements du Seigneur Jésus. Puis souvent, les miracles que le Seigneur Jésus fait vont être un tremplin pour qu'il donne un enseignement à la foule qu'il suit. Jean aussi va, d'une manière tout à fait particulière, démontrer comment ces signes-là ont été perçus puis comment les gens se sont souvent posé des questions par rapport au Seigneur Jésus lui-même. Et naturellement, Jean va démontrer aussi que ces signes-là, ces miracles-là, ont amené les autorités religieuses, les autorités juives à rejeter le Seigneur Jésus comme Messie. Bon, on va attacher nos ceintures, puis on décolle pour faire ce survol-là. Donc, ceux qui suivent, on est au chapitre 2 de l'Évangile de Jean. Donc, au chapitre 2, on a le premier miracle, celui de l'eau changée en vin lors du mariage à Cana en Galilée. Et d'ailleurs, un vin exceptionnel, un bon cru. Au verset 11 du chapitre 2, on lut « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » On constate beaucoup qu'on s'est posé des questions par rapport au Seigneur Jésus, même des gens, à un moment donné, vont arrêter de le suivre à cause de ce qu'il dit. Mais une chose est certaine que l'on voit dans l'Évangile de Jean, c'est que les disciples n'ont jamais défailli, ont toujours cru dans le Messie, sauf Judas, naturellement, qui l'a trahi. Et même lorsqu'il y a cette controverse-là au chapitre 6, puis que le Seigneur dit des choses qui sont difficiles à comprendre, il va dire aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre va lui répondre, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans la suite du chapitre 2, il chasse les vendeurs du temple, ce qui amène les Juifs à lui dire au verset 18 et 19, quel miracle ou quel signe nous démontres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en trois jours je le relèverai. Naturellement, il parlait du temple de son corps, il parlait de sa mort à la croix et puis de sa résurrection trois jours plus tard. Jean conclut la visite du Seigneur à Jérusalem lors de la fête de la Pâque. On lit au verset 23 et 25. Plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait, voyant les signes qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaît tous et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage lui-même d'aucun homme. Donc, tôt dans son évangile, Jean, il fait tomber le verdict. Hein. Si ses disciples ont cru en lui et ont continué jusqu'à la fin, de marcher avec lui, ben c'est pas le cas de tous. C'est pas une surprise non plus pour le Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que il y a rien qui lui est caché. Mais il y a une exception au chapitre 3, il y a Nicodème. Hein? Mais il y eut d'entre les pharisiens un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, il lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur, un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles ou ces signes que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Donc, ces signes-là, ça résonne un peu avec Nicodème. Hein? Il dit, « Personne ne peut faire ça, sauf s'il vient de Dieu. » Puis là, mais il y a des questionnements. Donc, il vient de nuit parce qu'il ne veut pas que les autres pharisiens sachent qu'il est venu voir le Seigneur Jésus. Et Jésus raconte cet entretien-là privé qu'il y a eu avec Nicodème. Une des beautés de l'Évangile de Jean aussi, c'est comment Jean raconte plusieurs entretiens privés qu'il y a avec des gens. On a déjà vu qu'il y a eu un entretien avec André, avec Nathanaël. Maintenant, on a Nicodème dans le chapitre 3, on a la femme samaritaine dans le chapitre 4, on a un officier qui guérit le fils. Je pense aussi que c'est au chapitre 4. J'ai un petit doute, mais de tout de même. Il y a un paralytique au chapitre 5. Il y a un aveugle-né au chapitre 9. Il y a Marthe et Marie. Il y a Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, au chapitre 11. Puis naturellement, il y a cet entretien-là, je vous ai parlé, que le Seigneur a en privé avec ses disciples, les 11, à ce moment-là, dans les chapitres 13 à 17. Donc, Jésus va s'entretenir avec Nicodème sur la nécessité de la nouvelle naissance, hein? D'être né de nouveau pour avoir la vie éternelle. Il annonce la croix, versets 14 et 15 du chapitre 3. Hein? Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme, un autre terme utilisé pour parler du Seigneur Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. On a encore ce thème-là de Fils de l'homme, de Fils de Dieu, qui est élevé pour que ceux qui croient aient la vie éternelle. On a la symbolique dans cette image-là que le Seigneur Jésus utilise, des Israélites qui, dans l'Ancien Testament, étaient mordus par des serpents. Pourquoi? Parce que c'était un jugement de Dieu vis-à-vis leur incrédulité. Puis là, Dieu dit à Moïse, mets un serpent d'airain sur une perche, mais là, assez haut, tout le monde le voit, puis tous ceux qui sont mordus n'ont qu'à regarder le serpent pour ne pas subir la mort due à cette morsure-là. Donc, on a la belle image du Seigneur Jésus qui, sur la croix aussi, a été élevé. Puis lorsqu'on plonge nos regards ou qu'on regarde au Seigneur Jésus par la foi de ce qu'il a accompli à la croix, aussi, on a la vie éternelle. Donc, le Seigneur Jésus utilise cette image-là. Et dans ce chapitre 3 de l'Évangile de Jean, on a le verset le plus connu, probablement, de la Bible, Jean 3,16, que la majorité d'entre vous peuvent citer par cœur, hein? « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Toujours les trois mêmes thèmes que Jean nous a dit dans son but de son évangile, hein? Qui écrit à propos du Seigneur Jésus pour que les gens croient, puis qu'en croyant, ils aient la vie éternelle. Bon, Seigneur Jésus n'a pas besoin du témoignage souvent teinté des autres pour connaître une personne. Puis c'est l'exemple de la femme samaritaine nous démontre ça. Au chapitre 4, lors de son voyage de Judée pour retourner en Galilée, il passe par la Samarie. Là, je vais aller vite, mais les Juifs ne passaient pas par la Samarie parce que les Juifs évitaient d'avoir des relations avec les Samaritains. Et d'ailleurs, aussi évitaient d'avoir un discours avec une femme seule, directement un homme s'adresser à une femme seule, ça aussi. Donc, il y a deux conventions sociales que le Seigneur Jésus brise là dans ce chapitre 4-là. Donc, il fait ce voyage-là à travers la Samarie. Il arrive à un certain endroit qui a des puits. Il envoie ses disciples aller chercher de la nourriture. Mais lui-même a soif, puis il va parler à cette femme samaritaine-là pour lui demander de lui donner de l'eau. Puis c'est un tremplin que le Seigneur Jésus utilise pour lui parler de l'eau qui étanche vraiment. Hein. Il va dire au verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Lorsqu'il lui demande de faire venir son mari, le but de ça, c'est qu'il veut lui démontrer qu'elle-même ne s'abreuve pas à la bonne source parce qu'elle a déjà eu 5 maris. Fait que ça démontre déjà là qu'elle ne s'abreuvait pas à la bonne source. Donc, il va lui dire, suite à cette rencontre-là que la femme a avec le Seigneur Jésus, elle va parler aux gens autour d'elle, puis elle va dire, venez voir, au verset 29, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Cette idée-là, tu sais, que Jean nous démontre comment les gens entrevoyaient le Seigneur Jésus, se posaient des questions à propos de sa personne. Au verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Au verset 41, on voit qu'un beaucoup plus grand nombre crurent. Pourquoi? À cause de sa parole, parce qu'ils sont aussi entretenus avec le Seigneur Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, mais nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde, le Seigneur Jésus. Verset 54, Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de la Judée en Galilée. C'est quoi? C'est la guérison du fils d'un officier. Mais Jésus lui reproche quoi au verset 48? « Si vous ne voyez des signes, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croirez point. » Parce que les gens étaient plus impressionnés par les miracles que la démonstration de ces miracles-là aurait dû faire de qui il était, lui, le Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur Jésus lui fait ce reproche-là. Bon, on a pris notre envol, on était à haute altitude, on n'aura pas le temps de... Allez aussi tranquillement qu'on va, même si vous voyez que c'est quand même assez vite, mais on va accélérer un petit peu. Au chapitre 5, à une fête des Juifs, Jésus monte à Jérusalem. Il va guérir un homme malade depuis 38 ans, hein, qui espérait être guéri en descendant dans l'eau de la piscine de Berseba lorsqu'il y avait un mouvement de l'eau. Mais lui, étant paralytique, de ce que je comprends, ne pouvait pas être le premier à descendre, mais c'était la première personne qui descendait dans l'eau qui était guérie. Mais le Seigneur Jésus va le guérir au chapitre 5, verset 8. Il va lui dire, « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Ça, c'est le troisième signe. Il y a un problème, cependant, au verset 10, on le voit, ce problème-là, c'est un jour de sabbat. Donc, il n'est pas permis à l'homme de transporter son lit le jour du sabbat. On devrait plutôt être étonné qu'il puisse le transporter, mais il n'est pas permis qu'il transporte son lit le jour du sabbat. C'est un travail. C'était trop pesant. On avait une limite de poids qu'on pouvait transporter le jour du sabbat. Puis l'autre problématique, c'est qu'on n'a pas le droit de guérir le jour du sabbat. Donc, le Seigneur Jésus a guéri cet homme-là. On n'a pas le droit. On a le droit de maintenir la vie le jour du sabbat, mais il faut attendre le lendemain pour guérir quelqu'un. Donc, on a ici l'opposition des Juifs qui se manifeste au verset 16 et 18 du chapitre 5. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit, jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Donc, on a là-dedans, les Juifs ne comprennent pas le miracle ou le but des miracles que le Seigneur Jésus entreprend. Eux autres, tout ce qu'ils comprennent, c'est que le Seigneur a violé la loi qu'eux-mêmes avaient établi, ce n'est pas la loi de Dieu, Mais lorsque le Seigneur Jésus dit qu'il agit parce que son Père agit, ils ont compris ce que le Seigneur Jésus a dit. Ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est « Je suis égal à Dieu ». Puis ça, c'était encore pire que de violer le sabbat pour les Juifs. Ils avaient compris qu'il s'était déclaré fils de Dieu. Donc, dans la suite du chapitre, le Seigneur va discourir sur sa relation avec son Père et les œuvres qu'il lui a données à faire, dont la plus importante est de celle de donner la vie au verset 21 du chapitre 5, « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Chapitre 6, au verset 2, une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Et dans ce chapitre-là, il va miraculeusement nourrir la foule qui le suit. Quatrième signe, quatrième miracle. Par la suite, il la renvoie, ainsi que ses disciples, de l'autre côté de la mer. Donc, il embarque dans des barques, il traverse la mer. Mais lui, il reste en arrière, puis il va les rejoindre en marchant sur l'eau. Le cinquième miracle. Naturellement, la foule qui n'a pas suivi, qui ont resté de l'autre côté, vont finir par être capables de traverser, puis ils vont le chercher, puis ils vont le trouver à Capernaum, puis là, ils vont se poser la question, mais comment est-ce qu'il est venu, parce qu'il n'y avait plus de barque? Comment est-ce qu'il a fait pour s'en venir jusqu'ici? Puis au verset 26, il répond, « en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc, c'est une confirmation que il était plus intéressé aux bénéfices des miracles que le fait que ces miracles-là auraient dû démontrer qui était le Seigneur Jésus, que c'était des signes. Dans le reste du chapitre, il y a un beau discours que le Seigneur Jésus fait où est-ce qu'il se présente comme le pain de vie. Comme je vous disais, le Seigneur utilise des tremplins dans ces signes-là. Et puis, il a nourri la foule par des pains et des poissons. Donc, il va utiliser cette image-là pour dire que c'est lui-même qui est le pain de vie qui donne la vie éternelle. Mais il y a des paroles assez dures dans ce discours-là, puis on a la conclusion du discours au verset 66. « Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui. » Chapitre 7 démontre qu'on ne sait pas quoi penser trop du Seigneur Jésus. Chapitre 7, verset 5, on lit que ses frères non plus ne croyaient pas en lui. C'est ses demi-frères, naturellement. Verset 31, « Plusieurs parmi la foule crurent en lui, il disait, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en fait celui-ci? » Donc, on a quand même une idée ici que les miracles que le Seigneur Jésus faisait, les signes qu'il faisait, ça faisait questionner les gens. Au verset 40, « Des gens de la foule, ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. » Parce qu'on attendait le prophète, c'était prophétisé, on n'a pas le temps d'expliquer, là, mais... D'autres disaient, c'est le Christ, donc le Messie. D'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? Naturellement, le Seigneur Jésus n'est pas né en Galilée, il est né à Bethléem. Mais ça, on se posait la question. Puis vu qu'on savait que son lieu de résidence avait été la Galilée, ben on se posait la question, mais il me semble qu'il n'est pas souhaité de venir de la Galilée. Mais on a le verdict des chefs religieux à la fin du verset 52. Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Sixième signe, guérison de l'aveugle-né au chapitre 9, qui entraîne une investigation des chefs religieux pour discréditer le Seigneur Jésus. On ne veut pas savoir si c'est vraiment le Messie ou pas le Messie. On veut, à ce moment-ci de l'Évangile, on veut le discréditer. L'opposition s'intensifie au chapitre 10, puis on a le dernier miracle, le septième miracle relaté au chapitre 7, au chapitre 11, excusez, qui est la résurrection de Lazare. Et dans son discours avec Marthe, la sœur de Lazare, je vois qu'il y a des gens qui tournent encore les pages. Bravo! Moi, je ne peux pas lire puis tourner en même temps. Mais dans sa discussion qu'il y a avec Marthe, la sœur de Lazare, le Seigneur va lui déclarer au verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Encore cette idée-là, de ces mots-là, de vie éternelle et de croire en lui. Mais le Seigneur dit ici, je suis la résurrection et la vie. Ici, il y a sept miracles que Jean utilise pour démontrer qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur, à sept reprises dans l'Évangile de Jean, va aussi affirmer être « je suis ». Il dit plus souvent que cette fois, mais il y a sept fois où est-ce qu'il le dit précisément pour donner une caractéristique, pour démontrer qui il est vraiment. sept moments spécifiques où il dit « je suis ici », il va dire « je suis la résurrection et la vie », il y a d'autres qu'on n'a pas le temps de regarder. Mais ce qui est important de constater, c'est en utilisant ce terme « je suis là », le Seigneur Jésus s'identifie comme étant Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, on voit que lorsque Moïse a demandé à Dieu « mais comment je vais dire qui tu es? » Ben, Dieu lui dit « tu diras au peuple, je suis celui qui suis ». Donc, par ces affirmations-là, il affirme sa déité. Donc, on a la résurrection de Lazare qui confirme qu'il donne la vie éternelle. Puis ce qui est intéressant dans la résurrection de Lazare, c'est qu'il va attendre qu'il est dans le tombeau 3 jours. Pourquoi 3 jours? Parce que pour les Juifs, après 3 jours, l'âme avait vraiment quitté le corps, puis la personne était vraiment morte. Ce que le Seigneur voulait, c'est que les gens réalisent qu'il était capable de donner la vie éternelle, de ressusciter les morts. Mais malheureusement, ça va sceller aussi, cette résurrection-là va aussi sceller la décision des autorités religieuses de le mettre à la mort. On lit au verset 47 du chapitre 11, « Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent, que ferons-nous, car cet homme fait beaucoup de miracles. Et si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et détruiront et notre ville et notre nation. » Encore cette idée-là de que les miracles avaient un effet sur la foule. Et au verset 53 du même chapitre, on voit que dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. C'est pourquoi Jésus ne se montra pas plus ouvertement avec les Juifs. On a le verdict final au chapitre 12, verset 37. « Et malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, afin que s'accomplisse la parole d'Isaïe, le prophète. » Donc, ça scelle la première partie de l'évangile de Jean. Puis dans la deuxième partie, il y a moins le Seigneur Jésus a moins d'interaction avec la foule parce qu'il va se consacrer à ses disciples, puis à les préparer à son départ. Puis ça va aussi, comme les autres évangélistes, avoir un récit de la mort puis de la résurrection du Seigneur Jésus. On a quand même le mot « croire », même s'il est moins mentionné dans ces chapitres-là, il est quand même mentionné à plusieurs reprises. Et puis, Jean va aussi démontrer que le Seigneur Jésus veut affermir la foi de ses disciples et la foi des croyants, puis veut affermir aussi notre foi. Puis le Seigneur Jésus veut préparer ses disciples à ce qui va arriver par après, là, naturellement, puis aussi à la mission qu'il va leur donner. Chapitre 13, verset 19, « Dès à présent, je vous le dis, avant que les choses arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez que je suis. » Donc, je suis le Fils de Dieu. Donc, il les prépare aux événements qui vont arriver à court terme, mais aussi à ce qu'ils vont faire plus tard. 14, 29, c'est écrit, « Maintenant, je vous ai dit ces choses, avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Naturellement, le Seigneur Jésus les rassure au début du chapitre 14, les deux premiers versets, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. » Il prie pour eux, puis il prie aussi pour nous. J'espère qu'on réalise que le verset 20 du chapitre 17, il prie aussi pour nous. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi, par leur parole, par leur témoignage, par ce que Jean fait lorsqu'il écrit cet évangile-là. » Puis Jean, il ajoute son propre témoignage. Lorsqu'il se rend au tombeau, on lit au verset chapitre 20, verset 8, « Alors l'autre disciple, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit et il crut. » La foi de ce disciple-là, la foi de Jean a été affirmée. Et on a dans la résurrection du Seigneur Jésus un huitième miracle, un huitième signe. Pourquoi je ne les inclus pas dans les sept premiers? Pour la simple et bonne raison que ce huitième signe-là, la foule ne l'a jamais vu. Vous savez que le Seigneur Jésus n'a jamais apparu après sa résurrection à des gens qui ne croyaient pas. Il a seulement apparu aux siens. Donc, ça le met à part par rapport aux autres miracles. Bon, maintenant, je pense que Jean réussit à faire ce qu'il voulait faire. Maintenant, j'espère que j'ai réussi à vous le démontrer que Jean atteint son but en écrivant son évangile. Jean termine son évangile avant de faire un peu un dernier rapproche avec Pierre, là, mais il y a comme deux fins dans Jean. Hein. On se demande s'il finit au chapitre 20 ou au chapitre 21, mais je pense qu'il finit au chapitre 20 aussi, puis il veut rajouter des choses au chapitre 21. Mais Jean dit quelque chose d'assez intéressant au chapitre 20. Puis, vous savez, lorsque Jean écrit cet évangile-là, on a dit vers 80-90, probablement beaucoup des témoins oculaires de ce qui était arrivé étaient morts à ce moment-là. Jean est, on peut le dire sans trop se tromper, Jean, c'est le dernier des témoins oculaires qui a probablement est mort parmi tous ceux qui ont vu le Seigneur Jésus ressuscité, rendu à cette époque-là. Puis, il va écrire à propos de Thomas, terminé. Puis, c'est intéressant parce que je pense que Jean a un but en relatant les paroles de Thomas au verset 29 du chapitre 20. Bien, plutôt les paroles du Seigneur Jésus envers Thomas, hein, qui voulait une preuve supplémentaire. Hein. Il dit, moi, là, je ne l'ai pas vu du Seigneur, puis ça me prend de mettre mes doigts aux bonnes places. Puis, le Seigneur Jésus va lui dire, après avoir satisfait aux exigences de Thomas au verset 29, parce que tu m'as vu, tu as cru. Il va dire, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Puis ça devait être beaucoup de gens qui ont lu l'évangile de Jean à cette époque-là. Puis c'est aussi notre cas à nous. On n'a pas vu ces choses-là. Donc, pour moi, c'est indéniable. Jean, il a atteint son but. Il y avait un double but. Il y avait le but de démontrer que le Seigneur Jésus est vraiment le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie attendu qui est mort sur la croix pour qu'on ait la vie éternelle, pour qu'en croyant dans son sacrifice, on ait la vie éternelle. Et on ne peut pas lire l'évangile de Jean sans voir ça, sans constater que Jean atteint son but-là. Mais il a aussi, je pense, atteint son but pour fortifier notre foi. Hein? Et c'est pour ça qu'on peut lire l'évangile de Jean, nous-mêmes, comme enfants de Dieu, pour avoir notre foi fortifiée. Donc, la prochaine fois que vous lisez Jean, j'espère que ce bref survol-là va vous aider à apprécier ce que Jean a écrit, puis mieux être capable de saisir tout l'enseignement que Jean veut donner dans son évangile. On va prier. Seigneur, on te remercie pour ta parole, puis on peut la regarder microscope, hein? Même des fois des mots, comme on l'a vu ce matin, ce mot choisi-là nous donne un enseignement tellement important, mais on peut le voir aussi macro, en hauteur. Et puis ça nous aide à apprécier vraiment tout l'enseignement que ta parole nous donne, et puis particulièrement ce que Jean fait. Jean nous a dit clairement le but qu'il avait lorsqu'il a écrit son évangile. Et puis, effectivement, il nous démontre avec certitude que le Seigneur Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, celui qui donne la vie. On prie vraiment que personne ce matin puisse nous quitter sans vraiment avoir cette pleine conviction-là du fait que le Seigneur Jésus donne la vie. Et qu'on a besoin de cette vie spirituelle-là aussi pour naître de nouveau, pour être enfant de Dieu. Et on te remercie, comme on l'a médité ce matin, de ce que le Seigneur Jésus a donné sa vie lui-même afin qu'on ait la vie, de ce que le Seigneur Jésus a pris notre condamnation, de ce qui nous a réconciliés avec Dieu, cette perte-là qu'on avait eue à cause de notre péché, à cause du péché d'Adam, de cette séparation-là. Seigneur Jésus a brisé le voile, a déchiré le voile pour qu'on ait accès à Dieu, mais pas seulement accès à Dieu, mais pour que, comme Jean le dit dans son évangile, dans son épître plutôt, pour qu'on soit appelé enfant de Dieu. Merci pour Jean, merci pour ce qu'il écrit. On veut vraiment te bénir, te louer ce matin. Amen.